après avoir reçu 87 voix des députés lors d'un vote à bulletin secret en séance plénière à la Knesset. Sachez également que des écrits et dessins inédits de Franz Kafka sont désormais accessibles en ligne et vous pouvez les voir à la Bibliothèque nationale d'Israël. En Allemagne, temples, églises et mosquées, Berlin a bâti un lieu de culte unique pour juifs, chrétiens et musulmans. Le projet House of One a été conçu par une agence qui s'appelle Kuhn Malvezzi au terme d'un concours international d'architecture. Je vous parlerai également d'une exposition qui se tient à Paris, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 21 août. L'expo est intitulée Simone Weil ou le parcours d'une icône. Je vous parlais également du testament du directeur du Mossad, qui termine d'ailleurs sa mission dans quelques jours. La résistante Colette Brühl-Hullmann est décédée à l'âge de 101 ans. Je vous emmènerai en promenade durant 48 heures à Tel Aviv, la ville blanche qui ne dort jamais. Et je vous parlerai de 4 mets méconnus d'Israël. En effet, oubliez un instant hummus et falafel. Le food d'Israël regorge de mets succulents et encore trop méconnus. Enfin, je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, le fait que j'ai beaucoup de chance. En effet, j'ai une belle-fille formidable, la plus gentille, un rêve pour toutes les belles-mères. Elle s'appelle Delphine et fête aujourd'hui son anniversaire. C'est aussi une excellente maman, c'est pourquoi je lui dédicace cette première chanson de l'émission « Les mères juives » de Georges Moustaki.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive. Les mères juives, je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives. Les mères juives, je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec tes pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères juives. Ta femme, c'est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères. Tandis que moi, je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez, des paires de gants des pulls à verre. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, l'énergie. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
Georges Moustaki avec les mères juives. Alors Israël a donc un nouveau président. Le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, a été élu 11e président de l'État d'Israël après avoir reçu 87 voix des députés lors d'un vote à bulletin secret en séance plénière à la Knesset. L'adversaire d'Yitzhak Herzog, l'éducatrice, lauréate du prix Israël, Myriam Peretz, a elle obtenu 27 voix et 3 députés se sont abstenus. Si elle avait été élue, Myriam Peretz serait donc devenue la première femme présidente de l'État d'Israël. C'est la plus grande victoire de toutes les élections présidentielles dans l'histoire d'Israël. Yitzhak Herzog remplacera donc le président Reuven Rivlin à la fin de son mandat le 9 ou le 10 juillet. Yitzhak Herzog a remercié tous les députés qui ont voté pour lui et a déclaré que c'était un honneur de servir l'ensemble du peuple d'Israël et il a qualifié Myriam Peretz de héros et d'inspiration. « Je serai le président de tout le monde », a déclaré M. Herzog, ciblant les Israéliens de tous les horizons politiques et les Juifs de la diaspora. M. Herzog a déclaré aux côtés de Benjamin Netanyahou qu'il était prêt à travailler avec n'importe quel gouvernement et n'importe quel premier ministre. Benjamin Netanyahou et le leader de Yamin, Naftali Bennett, qui tentent de le remplacer, ont félicité Yitzhak Herzog et souhaité bonne continuation à Myriam Peretz. Reuven Rivlin s'est entretenu avec Yitzhak Herzog au téléphone et a également appelé Myriam Peretz pour la remercier. « Je vous envoie mes salutations les plus chaleureuses, Monsieur le Président », a déclaré Reuven Rivlin. « Je peux vous dire que la responsabilité du rôle que vous êtes sur le point d'assumer est différente de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le système juif et démocratique que nous avons établi ici, sur la terre de nos ancêtres, a un corps et une âme. Si la Knesset est un lieu d'argumentation, comme nous l'avons certainement vu récemment, la résidence du président est un lieu de discours, de partenariat et d'État. » Reuven Rivlin a déclaré que le titre de premier citoyen et la tâche de protéger le caractère de l'État d'Israël, en particulier à ce stade, sont de lourdes responsabilités. « Mais je n'ai aucun doute que vous assumerez superbement ces responsabilités », a déclaré Rivlin. « Je suis fier de vous passer le relais dans un mois ». Avec sa victoire, Yitzhak Herzog est devenu le premier président dont le père avait été président. Chaim Herzog était en effet le 6e président de l'État d'Israël. Yitzhak Herzog, qui a visité le mur occidental mardi pour prier pour le succès, et Myriam Peretz ont poursuivi leurs efforts pour rencontrer autant de députés que possible avant le vote. Chaque faction de la Knesset a accordé à ses députés la liberté de voter selon leur conscience plutôt que de les lier par la discipline de faction. Aucune des factions n'a approuvé un candidat. Il s'agit de la première course présidentielle en Israël dans laquelle aucun des candidats n'était actuellement député. Myriam Peretz a déclaré qu'elle était ravie qu'après son arrivée en Israël depuis le Maroc et son séjour dans un camp de transit, elle ait été considérée comme digne de s'opposer à quelqu'un du calibre de M. Herzog. Elle a dit qu'elle continuerait dans sa mission de guérir les divisions dans la nation. Dans son discours de concession aux côtés de Benjamin Netanyahou, Myriam Peretz a déclaré qu'en se présentant, elle a accompli ce dont elle n'aurait même pas pu rêver étant enfant. Un président approprié et qui nous honore a été élu, a-t-elle déclaré. Je prierai pour son succès, car son succès est notre succès. Quant à Michael Segal, le président du Conseil des gouverneurs de l'Agence juive, il a déclaré que le dévouement indéfectible de M. Herzog envers le peuple juif et au service de l'État d'Israël est une inspiration et nous continuerons sans aucun doute à bénéficier de son leadership. Fin de citation. Le directeur du Mossad, Yossi Cohen, sans aucun doute l'un des meilleurs qu'Israël ait connu, achève donc son mandat après des dizaines d'années de service au sein de l'agence. À la veille de son départ, il a exprimé une sorte de testament à l'intention de son successeur, mais aussi du prochain gouvernement. Il faut accentuer les opérations contre le régime iranien et le combattre de manière radicale jusqu'à ce qu'il comprenne que tout franchissement des lignes lui coûtera des dégâts énormes. La semaine dernière, Yossi Cohen était l'invité de la sous-commission des renseignements. Il y a dressé un bilan de son activité à la tête du Mossad entre 2016 et 2021 et a exposé les défis auxquels est confronté Israël. Les membres de la commission l'ont remercié pour le travail prodigieux qu'il a effectué à la tête de l'organisation. Le successeur de Yossi Cohen sera donc David Barnea, qui est entré au Mossad en 1996 et y a gravi les échelons. Depuis 2019, il était le numéro 2 de l'agence. Il entrera officiellement en fonction le mardi, donc le 1er juin, il est entré donc officiellement en fonction. Alors, incroyable mais vrai, la fille du chef du Hamas est soignée en Israël. Il faut donc être bien vissé sur sa chaise pour ne pas tomber. La fille du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été hospitalisée en Israël pour y être soignée, y compris durant la fameuse opération Gardien des murailles, alors que pleuvaient les roquettes et missiles sur Israël. La fille du chef terroriste souffrait de complications après un processus médical et avait dû subir une greffe de moelle osseuse. Et qui mieux que les médecins de l'entité sioniste criminelle, je cite, pouvait lui fournir les meilleurs soins possibles. Interpellé sur ce fait, l'hôpital Irilov de Tel Aviv n'a pas démenti la présence de la fille du chef du Hamas et s'est contenté de dire qu'il s'agit d'une patiente parmi les milliers d'habitants de Gaza ou d'Arabes de Judée-Samarie qui sont soignés tout au long de l'année à l'hôpital Irilov. Alors, question, qui a dit « La chance des Palestiniens, c'est Israël. Sans Israël, personne ne s'intéresserait aux Palestiniens. »
אני הולך אלייך כל ימי אני הולך אלייך מסונבר אבנים פוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר
אני חוזר ואצלו זוהה מושיט ידי לטוף את שערך אינני כאן, אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערך
הנני כאן, כמו ציפורים חגות הנני כאן, מביטין הגדול הנני כאן, כמו אבן בגדר כמו סלע, כמו באר אשר תמיד חוזר, חוזר
אני חוזר ואלך גיבור אני מסיר ומלך וגבזן ובלילות בבקות השואלים אני חולם והרבח בו בזמן
שיחה שנויה במגדלים בין
לעבור להלך במדבר צריכות רכות נשקו אותן פנים שקיעות גדות נשקו אותן צוואר
כך ראיתיך יושבת
Yoram Gaon avec Iné Nikan. Alors maintenant, je voudrais vous parler cinéma. Un film proposé par Netflix à ne manquer sous aucun prétexte, je vous assure, je l'ai vu hier soir. Ce docu-fiction retrace l'histoire de quatre enfants juifs italiens visés par les lois raciales de 1938. Pour rappel, le 5 septembre 1938, le roi Vittorio Emanuele signe le premier décret des lois raciales qui, en quelques mois, interdira aux enfants juifs d'aller à l'école, puis aux adultes d'exercer leur profession. 50 000 âmes sont alors inquiétées. Du jour au lendemain, des élèves qui n'avaient même pas une idée précise de ce qu'était être juif cesseront d'être des enfants comme les autres, assistant de surcroît au désarroi de leur famille. Aux grandes lignes des lois raciales se grefferont une série de circulaires multipliant les discriminations et interdictions, telles par exemple la confiscation de brosses à dents ou encore de pots de chambre. Peu importe l'absurdité de la plupart de ces interdictions, peu importe ce qui est interdit, car ce qu'on veut rendre impossible aux Juifs, c'est la vie elle-même, souligne le narrateur. Et aux vexations suivront les exclusions. Tout se met en place pour persécuter les Juifs ou les inciter à partir. Ils se voient d'abord expropriés en échange de certificats à un taux inférieur à celui du marché. Leurs biens font ensuite l'objet de saisies. Peu d'entre eux mesurent la nécessité de fuir et encore, leur faut-il se procurer des documents pour s'expatrier. Et où ? La plupart des pays leur ont fermé leurs frontières. Donc le titre de ce film, c'est « Figli del destino », « Figli fait » F-I-G-L-I, donc les enfants du destin. Alors sur le même thème, à voir ou à revoir le film Amen, ou alors le merveilleux film Le Jardin des Finzi Contini. Si vous ne l'avez pas vu, vous voudriez peut-être le voir ou le revoir. Des lettres manuscrites et des dessins de l'écrivain juif tchèque Franz Kafka ont été scannés et mis en ligne pour le grand public par la Bibliothèque nationale d'Israël qui les avait récupérés au terme d'une longue bataille juridique. Dans cette collection inédite figurent environ 120 dessins, plus de 200 lettres à l'écrivain Max Brod, dont l'original de son testament littéraire, demandant à son ami qu'il brûle tous ses écrits. C'est ce qu'a expliqué Stéphane Litt, conservateur en charge du projet. Cette requête, rédigée par l'auteur de La Métamorphose, alors qu'il luttait contre la tuberculose dans un sanatorium autrichien, est accessible à tous depuis le 27 mai dernier. Après la mort de Franz Kafka en 1924, Max Brod avait décidé de ne pas détruire les écrits de son ami. En 1939, il quitte la Tchécoslovaquie occupée par les nazis pour Tel Aviv et emporte dans ses valises des écrits et dessins de Kafka. Max Brod a ensuite publié de nombreuses œuvres de Kafka et contribué à la célébrité posthume de l'écrivain tchèque, l'une des principales figures littéraires du XXe siècle. Après la mort de Max Brod en 1968, un véritable feuilleton juridique kafkaïen, c'est le cas de le dire, entre plusieurs pays, va secouer la scène universitaire et déchirer les ayants droit des héritages de Kafka et Brod. À la suite d'une décision de la justice suisse, une partie des archives qui se trouvait dans un coffre-fort en Suisse a été remise en mai 2019 à la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem. Les trois étages dédiés à la lecture de la nouvelle Bibliothèque nationale d'Israël avec un puits de lumière au plafond. La plupart des documents récupérés avaient déjà été publiés publiés par Brod, comme le texte du premier roman inachevé de Kafka, préparatif de noces à la campagne, mais deux surprises attendaient les archivistes de Jérusalem. En effet, nous avons découvert des dessins inédits, ni signés ni datés, mais que Max Brod avait conservés, raconte M. Litt, exhibant des dessins de personnages sur des petits bouts de papier, dont un portrait de la mère de Kafka et un autoportrait. La grande surprise que nous avons eue en ouvrant ces documents est son cahier bleu sur lequel Kafka a écrit en hébreu, en signant donc K, sa signature habituelle, raconte donc M. Stéphane Litt. Dans l'un des textes écrit dans ce cahier datant de 1920, il demande en hébreu à sa professeure de ne pas se fâcher pour les fautes dans ses devoirs, car je suis déjà fâchée pour nous deux. Malgré ces découvertes, un seul regret pour Stéphane Litt, aucun texte inédit parmi ces feuillets rédigés en allemand de Kafka n'a été retrouvé dans ce trésor venu de Suisse. Chrétiens, musulmans et juifs ont posé jeudi dernier à Berlin, en Allemagne, la première pierre d'un lieu de culte commun, un projet présenté comme unique au monde qui intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre communautés religieuses par le conflit israélo-palestinien. L'imam, le pasteur et le rabbin de la House of One ont voulu voir dans la pose de cette première pierre une étape importante vers l'achèvement de notre projet de paix interreligieux, selon les mots du rabbin Andreas Nachama. 10 ans après la conception de ce projet, les travaux de construction de ce vaste édifice situé sur l'île au musée dans le centre de Berlin doivent durer 4 ans. Leur lancement, prévu l'an dernier, avait dû être reporté en raison de la pandémie. Bâti sur une ancienne église détruite du temps de la RDA communiste, le bâtiment a été conçu par le cabinet berlinois Kuhn Malvezzi, sélectionné à l'issue d'un concours international. La mosquée, la synagogue et l'église protestante seront reliées entre elles par un grand hall commun où des événements et fêtes pourront également être célébrés ensemble. L'imam, le pasteur et le rabbin de la House of One ont prononcé de courtes prières avant que des objets symboliques des trois religions du livre ne soient coulés dans le béton. Le projet, estimé à tout de même 47 millions d'euros, est en partie financé par l'État allemand et la ville de Berlin. Une campagne participative et de dons a également été lancée afin de réunir les quelques 8 millions d'euros encore manquants. L'Allemagne, je vous le rappelle, compte une majorité de chrétiens, dont beaucoup de protestants, mais aussi une importante communauté musulmane, estimée entre 5,3 et 5,6 millions de croyants, soit 6,4 à 6,7% de la population. La joie liée à ce projet de paix unique des religions croît avec chaque pierre qui sera posée, s'est réjoui le pasteur Gregor Hoberg avant la cérémonie. Pour nous, c'est un pas en avant plein de symboliques, a assuré l'imam de la future mosquée Kadir Sansi. En ces temps de polarisation des opinions et des attitudes qui jettent une grande ombre sur le monde, la House of One incarne l'esprit constructif de la foi et de la spiritualité, a-t-il ajouté. Il a également vu dans ce lieu de culte les trois religions monothéistes, un lieu de paix et de sécurité, un éloge de la différence alors que les tensions entre juifs et musulmans ont été vives en Allemagne ces dernières semaines à la faveur de la reprise du conflit armé israélo-palestinien. Quant au maire de Berlin, Michael Müller, il a dénoncé dans un discours lors de la cérémonie la haine, la violence, l'antisémitisme et l'islamophobie, le racisme et l'incitation à la haine raciale qui n'ont pas de place dans notre société. Il est tout à fait normal et même important que dans la capitale allemande, des conflits mondiaux dramatiques puissent faire l'objet d'une discussion, a-t-il assuré, tout en rejetant toute forme de violence. Des drapeaux israéliens ont été brûlés et des slogans antisémites prononcés lors de rassemblements pro-palestiniens en Allemagne ces dernières semaines. La chancelière Angela Merkel avait mis en garde samedi dernier contre des débordements racistes ou antisémites lors des manifestations en faveur de la cause palestinienne. Ceux qui portent la haine contre les juifs dans la rue, ceux qui incitent à la haine raciale sont en dehors de notre loi fondamentale, avait-elle tensé après notamment des débordements violents pendant un rassemblement à Berlin et une soixantaine de personnes avaient été arrêtés, une centaine de policiers blessés. Décimée par la Shoah, la communauté juive est aujourd'hui l'une des plus dynamiques en Europe à la faveur de l'arrivée dans les années 1990 de plus de 200 000 juifs de l'ex-Union soviétique à qui l'Allemagne a ouvert ses portes. Elle est estimée actuellement à environ 225 000, soit la troisième communauté en Europe après la France et la Grande-Bretagne.
אז דר רבי שתי טויפן תש תתאבין קצם גבי רב שפו הויום דיך סידים לא זיכוי פינות וגיליפן דיק אינטר השנצו היי דרך הפון רב שריים גם זיכו בפשב דר נוח פרצית מן דם רב סניגן אין מן זינגט מיט גרויסס להבי Wer deiget jetzt, wer sorgt denn jetzt, er ruft die Meurisch heure. Der Rebbe soll leben, er wird schon geben, vor wem bin ob mir Meure. Chsidimlach singen, chsidimlach tanzt, man lass sich herein in der Kränzl. Der Hirn sagt zu Wisslach, klapp mit den Fisslach, ura wasch mit Tänzl. Die Peine ma babelte, ba peite, ba streimte, schichalachin, säckalachin, leichen. Singe, setze, singe, netze, feierte, zu springene, mit die Hände lach patschen. Ai, 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 ai. Vertragt sie dort rab Schleimerle, wie pfeift im Stieb der Dalles, zures Hotter, unerschied, Ich bin nicht kein Schales.
In hoben hat er, nahe Töchter, keinen Haare geruten alle. Noch weil es ist nicht, tu kein Naden, ist kein eine, noch nicht kein Kalle. Oi weiß mir, et weiß, was du's meint, et versteht, was ich mein. Na, Töchter weiß mir, na, Töchter, nein, Meiden weiß mir, säß nach mir auf mit dem Fleisch und mit den Beinen weiß mir. Rief Zachub, an altes Gera Ludwig, Rapsleime, was dein geht dir, Rapsleime? Sieh doch Sabes, in Sabes Tumen ist sein teurig. Bei uns, der geschrieben, als Sabes darf man ruhen, immer darf sein Freilich. Nehmt das Mektabik, nehmt das Mektabik. Wer deiget jetzt, wer soll denn jetzt? Arub die Meurisch heure, der Rebbe soll leben, er wird schon geben, vor wem hin ob mir Meure. Sie dem los singen, sie dem los tanzen, los sich herein in der Grenze, der Riesach zu bisschen, klappt mit den Füßler, nur auf der Schnittpänzel. Die Peine mal bei Bälde, bei Peite, bei Streimde, Schichelachin, Säckelachin, Laschen. Singen, setze, singen, setze, feierte, setze, springen, mit die Hände noch paschen. Ay, 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 ay.
C'était Yaakov Shapiro. Alors, si vous avez comme projet de vous rendre bientôt à Paris, je vous conseille d'aller voir absolument l'exposition qui se tient à l'Hôtel de Ville jusqu'au 21 août, Simone Weil ou le parcours d'une icône, l'Aube à Birkenau 2021, cette spectaculaire installation de David Teboul, composée d'un néon monumental déployé sur l'ensemble de la façade de l'Hôtel de Ville, semble inviter les visiteurs à entrer dans les salles de l'exposition Simone Weil, qui a ouvert ses portes le vendredi 28 mai. Plusieurs œuvres de l'artiste vidéaste, cinéaste, photographe et ami de cette femme d'exception ponctuent un parcours très riche en forme d'hommage à l'icône disparue en 2017 intitulé « Nous vous aimons, madame ». Ce titre, emprunté au discours prononcé par Jean d'Ormesson lors de la réception de Simone Weil à l'Académie française en 2010, en dit long sur ce que représente la vie de cette femme hors du commun dans la mémoire collective des Françaises et des Français. Survivante d'Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen, première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature en 1970, première femme ministre de plein exercice de la Ve République en 1974, elle est l'auteur de la loi sur la dépénalisation de l'avortement, puis la première présidente du Parlement européen en 1979. Une ancienne déportée à la tête de l'Assemblée strasbourgeoise, élue pour la première fois au suffrage universel, un symbole particulièrement fort. Réalisée sous la conduite de deux commissaires, Constance de Gaulmin, conservateur du patrimoine aux Archives nationales et responsable du Fonds Simone Weil, et Olivier Rosenberg, enseignant et chercheur à Sciences Po, spécialiste de la vie politique et parlementaire française et européenne, l'expo retrace de façon chronologique les différentes étapes de la vie de Simone Weil au travers de documents dont certains n'avaient jamais été montrés au public, dont une série de photographies prêtées par ses fils, des photos d'enfance issues d'albums de famille, la liste des convois de déportation de Simone Weil et de sa famille, ou encore un enregistrement de son témoignage sur la déportation en 1947 devant l'Assemblée nationale figure parmi ces documents remarquables. L'enfance à Nice, où Simone Jacob est née le 13 juillet 1927, passe trop vite, stoppée en plein vol par son arrestation le 29 mars 1944. L'événement qui changera le cours de sa vie intervient le lendemain du jour où la jeune fille a passé son baccalauréat, alors qu'elle avait été exclue de son lycée parce que juive. Une vidéo de David Teboul, qui avait été réalisée en 2003, un portrait intime sur et avec elle la montre avec sa sœur Denise, évoquant leur enfance. Les deux sœurs ont connu des déportations très différentes, souligne Olivier Rosenberg, Simone et son autre sœur Milou à Auschwitz, alors que Denise a été internée à Ravensbrück pour fait de résistance. Toute une pièce de l'exposition est consacrée d'ailleurs à la mémoire de la Shoah, où l'on peut aussi écouter son discours prononcé pour les 60 ans de la libération des camps. Dès son retour des camps, les trois sœurs ont perdu leurs deux parents ainsi que leurs frères. Simone Weil cherche à témoigner dans une France qui n'y est pas encore prête. Magistrate, elle travaille dans l'administration des prisons, les visite, œuvre à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Et en pleine guerre d'indépendance en Algérie, elle se voit confier une mission d'inspection des prisons algériennes. Et pour la première fois, l'exposition montre le rapport confidentiel issu de ce séjour ainsi que son ordre de mission daté du 11 avril 1959. Ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Simone Weil s'attelle au projet de loi sur l'IVG. L'expo montre le manuscrit et la version dactylographiée de son discours à l'Assemblée nationale. C'était le 26 novembre 1947, un document qu'elle croyait avoir perdu et retrouvé dans les cartons des archives nationales. Sa loi sur l'adoption est aussi restée dans les mémoires, avec la déclaration judiciaire d'abandon qui a permis à des milliers d'enfants d'avoir une famille. Puis en 1994, dans le gouvernement d'Édouard Balladur, elle instaure l'allocation adoption. La dernière salle est consacrée à l'icône qu'est devenue Simone Weil au fil du temps. Véritable autorité morale, elle entre au Conseil constitutionnel en 1998, préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 à 2007 et entre à l'Académie française en 2010. Son costume d'académicienne et le croquis de la main de Karl Lagerfeld qui a signé ce vêtement d'apparat termine le parcours d'une exposition accessible à tous, exhaustive et toujours très touchante, car elle allie avec doigté la part d'intimité et celle de la vie publique. Alors, détail pratique, si vous voulez voir cette expo, donc elle se tient à l'hôtel de ville jusqu'au 21 août, du lundi au samedi, sauf les jours fériés, de 10h à 18h30, et l'entrée en est tout à fait gratuite. C'était Sarit Haddad. Alors maintenant, il est plus que temps de nous rendre pour quelques heures à Tel Aviv, la ville blanche qui ne dort jamais. De la rue Chaïnkin au vieux Yafo, en passant par Neve Tzedek, plongée dans une ville joyeuse et bouillonnante qui regorge de bonnes tables, de cafés bohèmes et de boutiques branchées. Bienvenue donc à Tel Aviv, la ville la plus hédoniste d'Israël. Alors, le matin, on va commencer donc par le marché Carmel à Yafo. Ayez, je vous le conseille, le ventre vite avant de vous rendre au marché Carmel du dimanche au vendredi, situé en plein centre-ville. C'est un labyrinthe d'étalages de légumes, de fruits, d'épices, parmi lesquels se glissent des houmousia, des vendeurs de galettes yéménites, de biscuits syriens et de sandwichs irakiens. Delicious Israel propose des visites gustatives passionnantes hors des sentiers battus. La foule du vendredi offre une joyeuse ambiance qui se prolonge dans le marché artisanal Nachalat Binyamin, dans la rue du même nom. Photos anciennes et babioles kitsch sont à glaner parmi les grossistes en textile. Le boulevard Rothschild nous conduit très vite à Neve Tzedek, le quartier historique de Tel Aviv. Un dédale calme de maisons basses, traversé par la sympathique rue Shabazi, où s'alignent les bijoutiers. Et notre préféré est Agas et Tamar, ainsi que les galeries d'art. Alors, pour le déjeuner, à la lisière du marché Carmel, le Yom Tov Café sert de bons petits plats élaborés avec les produits frais du fameux marché, à croquer sans chichi, attablés en salle ou sur le trottoir. Service jeune et décontracté, à l'image de la clientèle, pour les amateurs de viande, filés au M25, les adeptes du vegan, eux, iront plutôt goûter les délicieuses assiettes bio de Meshek Barzilai, l'une des meilleures adresses du genre en ville. Et on est déjà dans l'après-midi. Rejoignons le bord de mer pour respirer l'air marin. Avec ses 14 kilomètres de plage bordée de palmiers et d'immeubles clinquants, Tel Aviv prend des airs de Miami Beach méditerranéen. La piste cyclable longe agréablement le front de mer jusqu'au vieux Yafo. Ce quartier majoritairement arabe est l'une des plus vieilles villes d'Israël. Perdez-vous, je vous le conseille, dans ces ruelles ocres, vous tomberez tôt ou tard sur le marché aux puces tous les jours, sur le samedi, entre la rue Yefet et la rue Bethéchel. Les vieux stands de breloques côtoient des magasins contemporains tout à fait séduisants. Et dans la trépidante rue Nachman, au café joyeux Asoufa, propose des petits souvenirs créatifs imaginés par des designers israéliens. Plus qualitatif, Saga, dans la rue Rabbi Pinchas, se veut galerie d'art et magasin design avec céramique, coussins, luminaire, mobilier. Tout est made in Israel. On retrouve les belles sérigraphies de Jonathan Reiner parmi les plantes vertes du café Saga attenant. Une pause tout à fait agréable dans le vieux Yafo. En fin de journée, retour sur la promenade au Manta Ray, restaurant panoramique posé au-dessus de la plage. Alma, déguster une margarita face au coucher de soleil et à la citadelle de Yafo. D'un coup de pédale, rejoignez ensuite à Tachana Station, une ancienne gare ferroviaire de la fin du 19e siècle, reconvertie en complexe commercial branché. Le lieu concentre le meilleur du Made in Tel Aviv depuis quelques années déjà. On en profite pour faire une pause gourmande chez Tash et Tasha de la cuisine géorgienne ou encore au bar Tapas à la barcelonaise Vicky Christina, le rendez-vous des hipsters de Neve Tzedek qui rouvre cet été. Pour un dîner gastronomique, direction George et John, le restaurant de l'hôtel Drisco. Tartare de céréoles, poulpe ciselée et riesling israélien, une cuisine méditerranéenne raffinée et généreuse à savourer dans un décor colonial distingué. Et pour la fin de soirée, la nuit est longue, vous le savez, à Tel Aviv, et les lieux festifs ne manquent pas. Alors, entre Neve Tzedek et Florentin, la jeunesse se mélange joyeusement pour danser dans la vaste cour en plein air du Teder, où concerts et DJ sets sont retransmis à la radio. Et à l'étage, un restaurant fameux, le Romano. Plus intime, l'élégant Herzl 16 nous accueille dans sa jolie cour tapissée de verdure. Et pour ceux qui ont encore faim, excellente cuisine, fusion à grignoter sur fond d'électro-orientaliste. Les bars et clubs du boulevard Rothschild ne sont plus très loin. Lesquels choisir? Suivez une visite nocturne des meilleurs bars avec l'agence BIE Tel Aviv. Voilà pour quelques conseils si vous vous rendez à Tel Aviv.
הזיו והשדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יעולה ואור יפים הם מלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסע הערפל בעמק בין הצריכה ועוד נשמע אם בלבבות אוהב לו סמר ישן ומחור וגם אחורה ההיא תימהה תולה עולה תולה לרדה וגם אחורה ההיא תימהה שירה ומלא ליבי ועולה לי 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 שעזבנו אז אור הארץ נושאת יעולה ואור יפים הם מלילות בבנן דרם השמש עולה
Et vous aurez peut-être reconnu Avi Toledano. Alors restons en Israël et oublions un instant le houmous et les falafels. La food d'Israël regorge de mets succulents et encore trop méconnus. Alors je vais commencer par le pilpel chouma, traduit littéralement de l'hébreu par poivre ail. Ce mélange de piment et d'ail formant une pâte a été introduit en Israël au XXe siècle grâce aux juifs libyens venus s'y installer. Avec le zouk, une autre sauce piquante apportée par les juifs yéménites et la harissa, le pilpel chouma est devenu le must des condiments, y compris dans la haute gastronomie. La preuve, le chef israélien Yotam Ottolenghi a fait figurer la recette dans Jérusalem, Hachette Cuisine, son livre de référence. Avec quoi ? Si Dan Yosha, le chef de la nouvelle table israélienne Shosh, à Paris, l'inclut dans un sandwich au bœuf, il le conseille également sur un poulet ou avec un poisson, accompagné de pommes de terre et de poivre, en précisant « En Israël, il y a toujours du pelpel chouma sur la table ». Deuxième mets, le baba ganoush. Le baba ganoush, ben, ça change un peu du gaktelib et tout ça. Hein. Le baba ganoush est une purée d'aubergines mélangée avec du tahini, de l'ail, du citron et bien sûr de l'huile d'olive. Traditionnellement servie avec les autres plats de la kemia. Kemia, ce sont les amuse-bouches de l'apéritif. Cette mousse onctueuse regroupe tous les ingrédients de base de la cuisine moyen-orientale. Le soleil du sud dans nos assiettes. Avec quoi ? Quelques graines de grenade sur le baba ganoush apportent un côté croustillant et acidulé qui va contrebalancer son aspect crémeux. C'est ce que suggère en tout cas Raphaël Choël, journaliste et auteur du livre « Voix et saveurs de femmes d'Israël » qui précise « On met le tout dans une pita bien chaude et le résultat est merveilleux ». Alors, on en vient au petit tim, surnommé le couscous israélien. Le petit tim a été créé en 1953 à la demande de David Ben-Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, en substitut au riz pendant la période d'austérité du pays. L'entreprise Ozem invente alors ses pâtes en forme de perles de blé qui, en Israël, sont aussi cultes que le bœuf bourguignon. Alors, avec quoi ? Le petit tim peut se consommer froid dans une salade de concombre, oignons et tomates en guise de taboulé ou bien chaud dans une ratatouille ou avec une viande rouge. Alors, pour terminer, je vais vous parler du Sfatit. On le sait peu, mais Israël est également un grand producteur de fromage. Parmi eux, donc, le Sfatit, dont le goût délicat du lait de brebis est souvent parfumé aux herbes et aux épices. Créé dans la ville de Safed, Tzfat en hébreu, d'où il tire son nom depuis le 19e siècle, il est généralement vendu dans des petits paniers et sa recette transmet de génération en génération. Alors, avec quoi ? Très healthy, comme l'ensemble de la cuisine israélienne, le Sfatit se consomme souvent au petit déjeuner sur un toast, une salade ou même cuisiné dans un plat de pâte avec du basilic et des tomates, recommande le fameux chef dont je viens de vous parler, Dan Yosha.
זאת שברכה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו משלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהעם הבא תחזור אלינו יודעת לא הייתי שר לך סתם כך הנביאים כבר מתו ומי שנבא לי חלליות עפות למעלה ולמטה פתאום זה שיר געגועים כמו שנדמה לי בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהערבה תחזור אלינו בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו משלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו
C'était donc le chanteur israélien Shlomo Artzi. Une grande dame s'est éteinte, l'ancienne résistante juive Colette Brühl-Hulman, qui avait participé au sauvetage d'enfants juifs à l'hôpital Rothschild à Paris durant la Seconde Guerre mondiale, est donc décédée le samedi 22 mai à l'âge tout à fait respectable de 101 ans à l'hôpital de Brie-sur-Marne dans le Val-de-Marne. En 1941, Colette Brühl-Hulman devient interne en médecine à l'hôpital Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris, le seul hôpital qui n'interdit pas alors aux médecins juifs d'exercer. Des hommes en provenance du camp d'internement de Drancy y sont soignés, puis après la fameuse rafle du Veldiv à Paris le 16 juillet 1942, des femmes et des enfants malades. Selon Colette, la rafle est un basculement. À partir de ce moment, elle fera tout pour sauver les enfants juifs de l'enfer de Drancy et des camps. C'est ce qu'a expliqué Jean-Christophe Portes, journaliste avec qui elle a écrit un livre témoignage, Les enfants du dernier salut, paru en 2017. Un réseau se met alors en place à Rothschild pour éviter qu'ils retournent au camp de Drancy. Les enfants hospitalisés sont exfiltrés de l'hôpital, puis confiés à des réseaux d'entraide et de faux certificats de décès sont notamment rédigés. Elle retenait plus les enfants qu'elle n'avait pas réussi à sauver que ceux qu'elle avait sauvés, se souvient Jean-Christophe Portes. C'est une histoire assez méconnue, mais une centaine d'enfants auraient été sauvés au sein de cet hôpital, selon donc M. Portes, qui a réalisé un documentaire sur le sujet intitulé « Les enfants juifs sauvés de l'hôpital Rothschild », diffusé en 2015 et dans lequel Colette Brühlmann s'était livrée. Et en 1943, cette dernière est contrainte de s'enfuir de l'hôpital Rothschild et rejoint le Bureau central de renseignement et d'action, un service d'espionnage où elle fait du renseignement jusqu'à la libération en 1945. Et après la guerre, elle est devenue pédiatre, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, où elle vivait avec son mari, également médecin, et leurs trois enfants. En 2019, elle avait reçu la Légion d'honneur. Et voilà, c'est sur cette information que se termine cette émission Découverte. J'espère bien sûr qu'elle vous aura intéressé. En ce qui concerne la suite du programme, vous retrouverez après 12 heures les informations en direct d'Israël, de Jérusalem et de Tel Aviv. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Hagit Shabbos et bien sûr, je vous fixe rendez-vous vendredi prochain, même heure, même chaîne.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.